La parabole de la drachme perdue ressemble à celle de la brebis perdue et à celle de l'enfant prodigue. Bon, ce sont ces trois paraboles que l'on a ensemble, avec à chaque fois quelque chose de perdu et de retrouvé, et qui nous apprend de trois manières différentes qu'il y a une joie immense pour un pécheur qui se repent. Et cela nous dit même qu'il y a 10 fois, voire même 100 fois plus de joie pour un pécheur qui revient sur la bonne route que pour un juste qui reste fidèle. Bon, ça on veut bien le croire, mais il y a là-dedans à la fois quelque chose qui est une bonne nouvelle et quelque chose d'un peu choquant. La bonne nouvelle, eh bien, c'est ce que l'on a à chaque fois quand on se considère comme pécheur, c'est cette image du Dieu qui se préoccupe de chacun individuellement et qui ne se contente pas de dire « Oh ben, je m'en fiche, j'ai beaucoup de fidèles, un de plus, un de moins, ça ne compte pas », mais chacun individuellement compte pour lui, et donc on n'est pas un parmi 100 ou un parmi 1000. Et de même, la bonne nouvelle, c'est ce Dieu qui est comme le père du fils prodigue et qui accueille à bras ouverts le fils qui revient à lui, sans poser de questions, sans reproches, sans récrimination, sans rien. Le fils revient, il se réjouit, il le prend dans ses bras, il l'embrasse et il tue le veau gras pour faire la fête avec lui. Donc ça, c'est une image de Dieu que l'on aime bien et on s'en réjouit. Mais en même temps, notre joie est toujours un peu ternie par le sentiment que l'on a en pensant à celui qui est juste, c'est-à-dire les 99 brebis. Bon, c'est très bien que le père aille chercher la brebis perdue, mais les 99 qui sont abandonnées dans le désert, c'est quand même pas très sympathique pour elles. Et de même, le fils prodigue, on est très heureux que le père accueille le fils prodigue, mais les récriminations du fils aîné, qui n'est pas content et qui dit « Écoute, c'est pas juste, moi j'ai toujours été fidèle, j'ai toujours été juste, j'ai travaillé pour toi et tu ne m'as jamais offert un agneau pour faire la fête avec mes amis », eh bien, on comprend aussi peut-être un peu ce, je dirais, que le fils aîné puisse ne pas être content. Alors, comment résoudre ce problème? Eh bien, je crois que ce genre de sentiment à l'égard des 99 brebis ou du fils aîné provient d'une double erreur. La première, c'est que on se dit que ça n'est pas juste pour celui qui a toujours été juste, qui a toujours été bon et toujours travaillé. Alors, est-ce que vous considéreriez dans ce cas-là, c'est-à-dire qui peut se considérer comme étant totalement juste? Est-ce qu'il y a une seule personne sur terre qui puisse dire à Dieu, « Seigneur, moi j'ai toujours été fidèle, j'ai toujours travaillé pour toi, je ne me suis jamais égaré, jamais éloigné, jamais je n'ai fait un faux pas. » Eh bien, personnellement, je ne crois pas que ça existe. Et autrement dit, je crois que finalement, ce fils aîné du fils prodigue, eh bien, il n'est pas sympathique du tout, parce qu'il dit « Moi, j'ai toujours été bon ». Mais pour qui se prend-il? Est-ce que vraiment c'est possible? Et est-ce que vraiment il est possible d'imaginer que quelqu'un soit totalement sans péché? Donc moi, je pense que cette situation, en fait, n'existe pas. Au contraire, c'est ce que Jésus a toujours combattu, c'est-à-dire le pharisaïsme. Celui qui, justement, les pharisiens qui se disent « Nous, nous sommes bons, nous appliquons la loi, ce ne sont pas comme ces pécheurs, comme ces péagers, ces prostituées, nous sommes bons et Dieu devrait nous récompenser, il devrait nous féliciter. » Eh bien non, tout simplement parce qu'il n'y a pas un juste et pas même un seul. Et comme dit Paul, tout le monde est pécheur et par conséquent, la vérité, c'est que nous sommes tous des enfants prodigues. Et la vérité, c'est que nous sommes tous plus ou moins des brebis perdues. Et celui qui s'imagine être le juste, le bon, le parfait, eh bien, il se trompe. Et donc, je dirais, Dieu d'ailleurs ne condamne pas le fils aîné. Dieu ne tue pas les brebis qui se croient sauvées. Mais il leur dit, vous croyez bon et parfait, ben, très bien, vivez votre vie. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de moi. Si vous croyez au-dessus de tout, vous n'avez plus besoin de Dieu. Et il les laisse simplement à leur propre liberté. Et du coup, l'autre erreur, c'est, je crois, de vouloir couper l'humanité entre les bons et les mauvais. Comme s'il y avait les justes et les injustes. ceux qui sont pécheurs et ceux qui ne le sont pas. Parce que je pense que c'est faux. En effet, j'ai découvert ça lorsque l'on a étudié cette parabole des brebis perdues avec les enfants de l'école biblique. Alors on étudie la parabole et on leur dit « Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ?» Alors, ils ont bien appris la leçon et ils savent que quand on lit une parabole, il faut toujours se demander « Où est Dieu ?» Bon, c'est le berger. « Et où je suis moi ?» Alors là, ça se complique. Parce que certains ont dit « Ben, moi, je suis les 99 brebis. » Parce que moi, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un assassin, je suis un bon chrétien, donc je suis juste. Et d'autres disent, ben oui, mais moi, je suis un peu la brebis égarée parce que je ne suis pas toujours absolument comme il faudrait. Alors bon, ils se sont disputés entre eux, mais non. Mais... Et finalement, il y en a un qui a dit ce qui est très juste, il dit, mais en fait, on est un peu les deux à la fois. Et ça, c'est la vérité. C'est qu'on est un peu les deux à la fois. En effet, on est à la fois fidèle d'une certaine manière, et injuste d'une autre. Et donc il y a en nous une part de bon et une part de mauvais. Et les deux fils, je dirais, cohabitent en nous. Il y a le bien qui est en nous, que nous faisons, et il y a le mal qui doit être essayé d'être converti. Et même, je trouve que d'ailleurs, Jésus est bien sympathique et bien gentil. Parce que quand il dit qu'il y a 99 brebis justes et une injuste, ben, je trouve que c'est gentil, parce que je ne suis pas sûr qu'en moi, il y ait 99% de bons et seulement 1% de mauvais. Bon, alors la parabole de la drachme, c'est déjà un peu moins. C'est 9 drachmes sauvées et une de perdue. 90%, 10% de bons. Ouais, peut-être moi. Ben, encore, c'est déjà généreux. Le fils prodigue, c'est plus que 1 sur 2. Bon, finalement, je suis peut-être ça. Voilà, c'est peut-être plus juste. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a toujours en nous une part de bon et une part de mauvais. Et que du coup, ces paraboles, ce qu'elles nous disent, c'est que la part de bon qui est en nous, que ce soit 99%, 90%, 50%, peu importe, ce qu'il y a de bon en vous, ce qu'il y a de juste et de généreux, d'altruiste, de fidèle, etc., eh bien c'est parfait, ne touchez rien, laissez comme ça. Les 99 brebis, on les met de côté, on n'y touche pas. Allez vous préoccuper de la partie qui vous manque. Et dites-vous, tiens, il y a là un domaine dans lequel je peux progresser, il y a là quelque chose que je pourrais convertir en plus, quelque chose que je pourrais ramener à la vie, ramener à Dieu ou plus, à l'amour ou au service des autres. Mais la partie qui est bonne, ne dites pas quand même, Dieu pourrait me féliciter d'avoir payé mon billet dans le métro hier, parce qu'il y a plein de gens qui trichent, hein. Donc moi je suis formidable et on devrait me... Mais non, on devrait rien du tout, vous avez fait le bien et c'est tout, vous avez fait votre devoir... Comme dit l'Évangile, je n'ai fait que ce qu'un serviteur doit faire et le maître ne va pas passer son temps à tresser des couronnes lorsque vous avez fait preuve de gentillesse, d'amabilité pour votre voisin ou lorsque vous avez fait preuve d'un signe d'amour ou de grâce. Ce qui est bon, eh bien parfait, on le garde, on n'y touche pas et préoccupez-vous de la partie de vous-même qui s'est éloignée de Dieu. Et ce que nous disent chacune de ces paraboles sur la joie de la brebis retrouvée, sur la joie de la pièce retrouvée, sur la joie du fils retrouvé, c'est que la joie, elle se trouve non pas dans le fait d'être meilleur qu'un autre, mais elle se trouve dans le fait d'avoir progressé. C'est-à-dire, c'est quand, lorsqu'une partie, ne serait-ce qu'un centième, tout à coup s'améliore, c'est là qu'il y a une grande joie. C'est là qu'il y a une grande joie, parce que la joie, c'est simplement dans le dynamisme, dans le progrès, dans le fait d'avancer. Et quelqu'un qui dirait « moi j'ai la foi, ça me suffit », eh bien, il est mort finalement. Je dirais, il n'a aucun intérêt, parce qu'il n'avance pas. Il n'avance pas parce qu'il n'y a plus de dynamisme. Ou celui qui dirait « bon ça va, hein, je suis assez généreux comme ça, je donne assez aux pauvres, et je suis bien assez gentil dans ce monde », eh bien celui-là, il perd tout le dynamisme, je dirais, de la vie et de la joie. Et que pour la vraie joie, c'est le dynamisme et c'est de progresser. Et ça, tous les enfants le savent, ou même tout le monde. Quand on apprend à faire un sport, eh bien, on n'a pas besoin d'être champion olympique pour avoir de la joie dans ce sport. Ce qui nous donne de la joie dans la pratique d'un sport, eh bien, c'est quand on progresse. Et même le débutant à ski, qui avant tombait tous les mètres, et tout à coup arrive à faire 20 mètres d'un coup sans tomber et à s'arrêter au bout, il est plus heureux que le champion olympique qui gagne le record du monde, parce qu'il a progressé et il a avancé. Et en musique, c'est pareil. De toute façon, vous ne jouerez jamais aussi bien que les disques que vous pourrez acheter, mais travailler un morceau de musique et jour après jour arriver petit à petit à ce progrès, c'est une joie extraordinaire, parce qu'on est dans le dynamisme qui nous permet d'avancer. Et du coup, ce que j'aime dans ces trois paraboles, c'est qu'elles montrent précisément que la foi n'est pas un état qu'il faut essayer de conserver comme il est, mais que la foi, c'est une quête permanente pour essayer d'avancer, de progresser et de se reconvertir à Dieu. Et du coup, oui, nous devons sans arrêt nous reconvertir à Dieu. Et nous ne sommes pas les 99 justes brebis. Nous sommes sans arrêt en nous, on est en train d'essayer de se dire « Comment vais-je convertir la brebis en moi qui manque ?» Et autrement dit, je pense que les chrétiens qui présentent la conversion comme un état passé de leur vie, en disant « Moi, je me suis converti, je suis chrétien, ou je me suis converti telle date, tel jour, à telle heure, et j'ai été baptisé, maintenant je suis chrétien », c'est une erreur. Parce que la conversion n'est pas un acte passé, la conversion c'est ce que nous devons faire tous les jours. Et donc si on me demande « Mais toi, quand es-tu converti ?» Je dis ben, « Je suis en train d'essayer de me convertir sans arrêt à Dieu, parce qu'il y a toujours en moi la petite brebis à convertir, et toujours en moi cette drachme perdue que j'essaye de retrouver. » Et ainsi la foi n'est donc pas un état, mais une démarche permanente. Et c'est, vous disais-je, chaque progrès qui peut, même minime, qui peut donner de la joie. Et finalement, ce qui compte, ce n'est pas le trésor total, mais c'est la progression. Et je crois que Dieu, c'est ça qu'il regarde et qui lui aussi rend joyeux. En effet, on le trouve ça dans beaucoup d'autres paraboles. Par exemple, quand il dit on demandera beaucoup à celui qui a beaucoup reçu. Oui, certainement, parce que tout est relatif, je dirais, dans la vie. Ou encore cette célèbre parabole des talents, où finalement celui qui a deux et qui en gagne deux autres est traité de la même manière que celui qui en avait cinq et qui en gagne cinq autres. La seule erreur, c'est celui qui en avait un et qui, au lieu d'essayer d'avancer, l'enterre. Alors celui-là, il a tout perdu et il est jeté dans les ténèbres du dehors. Donc voilà, cela nous montre effectivement cette image de Dieu qui est sans arrêt en quête, non pas pour féliciter les meilleurs, distribuer les prix, mais au contraire qui se réjouit chaque fois qu'il y a un être humain qui a progressé d'un cran et avancé un petit peu. Mais comment faire pour nous, pour essayer d'avancer, de convertir cette brebis perdue et d'essayer de retrouver cette drachme perdue? Eh bien, curieusement, je crois que le mode d'emploi est donné dans le texte lui-même. Parce qu'il y a un indice qui m'a étonné dans ce texte. Vous avez remarqué que, je dirais, il s'agit dans la drachme d'une femme qui cherche une pièce perdue. Et le texte nous fait comprendre que c'est Dieu qui est à la quête du pécheur ou de ce qui est pécheur en nous pour essayer de le retrouver, de le ramener à lui. Déjà, c'est intéressant puisque... Ça a été observé depuis longtemps, mais un certain nombre de théologiens féministes disent « Tiens, c'est intéressant que pour une fois, Dieu soit comparé à une femme. » C'est-à-dire d'habitude, Dieu est toujours comparé à un homme, et là, Dieu est comme une femme qui cherche une drachme perdue. Donc ça montre que Dieu peut avoir une dimension féminine, et c'est extrêmement intéressant. Mais néanmoins, je ne suis pas sûr que ce soit la seule raison pour laquelle il s'agisse là d'une femme, et que Jésus ait juste fait ça par une sorte de souci de parité. Je crois au contraire que le fait que là, ce soit une femme qui cherche la drachme, doit nous faire comprendre qu'il y a autre chose là derrière. Parce qu'en effet, dans toute la Bible, la femme, c'est l'image de l'humanité, et Dieu, c'est l'époux, c'est le fiancé, autrement dit, qui s'unit à la femme. C'est toute l'histoire du Cantique des Cantiques. Et donc, quand on nous dit « c'est comme une femme qui cherche une drachme », je me dis « mais peut-être qu'après tout, certes, c'est Dieu qui cherche l'égaré, mais peut-être que c'est aussi l'image de moi-même qui cherche en moi-même la drachme perdue. » C'est-à-dire que c'est l'image de l'homme qui cherche en lui la partie à convertir. Et du coup, je peux dire, donc deuxième lecture qui se superpose à la première, cette histoire me montre comment moi, humain, je peux essayer de retrouver cette partie de moi qui est égarée pour l'amener à Dieu. Alors la démarche, elle est intéressante parce qu'on voit que la femme, d'abord, n'attend pas passivement. C'est le risque avec l'histoire de la brebis perdue. On pourrait croire que, bon, je vais attendre que Dieu vienne vers moi, me donne la foi et me sauve, donc j'attends que ça se passe tout seul. Réponse, non. Il y a une démarche active, soi-même, à faire et à prendre part au processus. Et donc la femme n'attend pas passivement que Dieu gère tout, mais elle va essayer de, elle-même de retrouver cette drachme perdue, parce qu'elle s'en préoccupe. Et pour ça, eh bien, c'est dit en très peu de mots, mais c'est très clair, on nous montre comment elle fait. On nous dit qu'elle allume une lampe, qu'elle balaye la maison et qu'elle cherche avec soin. Alors, voilà les trois étapes. D'abord, allumer une lampe. L'idée de la lampe est intéressante parce que ça montre qu'on peut avoir besoin d'une aide extérieure, qu'il faut se donner peut-être les moyens de sa propre quête et qu'on a besoin parfois d'aide et que tout seul, on aurait du mal à y arriver. Ça, je le dis avec d'autant plus de force et de conviction que parfois les protestants ont un peu tendance à considérer qu'ils n'ont besoin d'aucune aide. Donc ils se disent « je me débrouille tout seul, je n'ai pas besoin de rites, ni d'actes religieux, ni d'église, ni de pratiques, ni de rien, ni d'image, ni de quoi que ce soit, je me débrouille tout seul. » Oui, on se débrouille tout seul, d'accord, mais là la femme, elle va chercher une lampe. Donc on a parfois besoin d'une aide extérieure. Mais ce qui est quand même un peu plus réformé, ce coup-ci je retombe sur mes pieds avec force, c'est que quelle est cette lampe à laquelle elle va faire appel pour avancer? Là encore, ce sont des vieux souvenirs d'école biblique qui me reviennent. Quand on nous cite le psaume 119 qui dit « Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Et donc la lampe, eh bien c'est la parole de Dieu. La lampe, c'est la Bible. La lampe, c'est l'Écriture, évidemment. Et cela veut dire que la Bible peut nous aider à éclairer notre propre vie pour essayer d'y voir plus clair. Alors là, ça me passionne, parce que ça montre que la Bible n'est pas un livre à obéir, c'est pas un livre qu'il faudrait appliquer ou qu'il faudrait croire, mais c'est un livre qui vient nous donner du recul et nous permettre de voir ce que nous n'arrivions pas à voir. La Bible nous permet de discerner les choses essentielles de notre vie et à les voir autrement. Et je pense effectivement que la fréquentation des Écritures, eh bien, ça éclaire notre vie. Ça l'éclaire et du coup, on voit qui l'on est, qu'est-ce qu'il y a de bon en nous, de moins bon, ce que l'on pourrait arranger ou pas. Ça donne véritablement un éclairage nouveau sur notre existence. Et je crois que c'est très important, sinon on est forcément un peu aveugle sur soi-même. Ou alors cette lampe, c'est la lumière. Et qui a dit qu'il était la lumière? Ben, c'est Jésus. Je suis la lumière du monde. Et donc je crois que Jésus, oui, c'est l'évangile est une parole qui nous éclaire. Mais bon, c'est la même chose puisque Jésus est dit être l'incarnation de la parole, donc Jésus c'est la parole aussi. Donc ça c'est évident, je n'ai pas de problème. Ensuite, on nous dit que la femme, donc aidée par la parole, la lumière de l'Écriture, elle regarde sa vie, elle fait une sorte d'introspection avec cet éclairage extérieur, cette compagnie de la parole qui lui permet de voir autrement sa vie. On nous dit qu'elle va balayer la maison. Ça, c'est drôle aussi parce que ça peut sembler un petit peu trivial et pourtant, ça l'est peut-être moins qu'on pense. C'est-à-dire, peut-être que ce texte nous invite-t-il à un moment donné à mettre de l'ordre dans nos vies. Alors là encore, je n'ai pas très envie de le dire parce qu'on prêche sans cesse que l'Évangile n'est pas une morale et que ça n'est pas la morale qui va sauver nos vies et que ce n'est pas en appliquant des règles que l'on va être sauvé, mais qu'il faut se convertir de l'intérieur. Certes, j'en suis convaincu, mais néanmoins peut-être que parfois un petit peu de mettre un peu d'ordre dans sa vie peut permettre d'y voir plus clair. Autrement dit, même si ça n'est pas le but de l'opération, L'Évangile nous dit, écoutez, commencez déjà par mettre un peu d'ordre dans vos vies. Voilà. Parce que votre vie, c'est le bazar. On n'y comprend rien. Une chatte n'y retrouverait plus ses petits. Et donc, mettez de l'ordre un peu. Organisez un peu tout ça et faites un peu le ménage. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui ne mériteraient pas d'y être. Alors après, on fait ce qu'on peut parce que, comme dit Paul, je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je voudrais. Mais il y a quand même, très honnêtement, des choses que l'on peut faire. Et donc, commencez déjà, excusez-moi, par mettre un peu d'ordre dans vos vies. Et puis, l'idée du ménage, c'est de mettre de l'ordre, et c'est aussi de retirer tout ce qui ne vaut rien. C'est-à-dire, je balaye et puis je jette. C'est-à-dire, je garde ce qui est précieux et je fais le tri. Et ça aussi, c'est un travail à faire. Un travail, je dirais, cathartique, qui consiste à essayer, toujours à la lumière de l'Écriture, de voir qu'est-ce qui vaut quelque chose et qu'est-ce qui ne vaut rien. Et ce qui ne vaut rien, je le jette, je m'en débarrasse, parce que sinon, je ne peux plus mettre un pied chez moi. Et ça me fait penser à, vous savez, la vie, finalement, nous sommes un peu comme un voyageur en ballon. Vous savez, dans les montgolfières, si vous lisez ces récits de Jules Verne, ils sont très touchants, au moment où il y a la montgolfière qui descend, et il se dit, je vais m'écraser par terre. Alors on se dit, il faut jeter des choses, il faut se débarrasser. Donc il regarde tout ce qui est lourd et on jette. Tiens, ça, j'en ai pas besoin, ça, c'est inutile. Et on jette par-dessus bord, ce qui permet de retrouver de l'élévation. Eh bien, je crois qu'il y a ce travail à faire sans arrêt dans sa vie, d'essayer de se détacher de ce qui ne sert à rien et de ce qui nous encombre. Il y a là un vrai travail à faire que l'on peut faire sans cesse et qui permet petit à petit de se retrouver sur l'essentiel. C'est extrêmement difficile à faire et je me prêche à moi-même parce que je ne pense pas être très doué pour faire ça, mais je suis convaincu qu'il faut essayer d'y travailler. Et j'admire en particulier un certain nombre de personnes qui savent le faire, ou alors de personnes âgées qui arrivent effectivement dans une sorte de temps où petit à petit on se détache de ce qui n'est plus essentiel. Et on arrive à se recentrer sur l'essentiel et l'absolu essentiel. Et heureux celui qui arrive, je dirais, au moment de la mort, à n'avoir plus rien. Parce qu'à ce moment-là, la mort ne lui enlève plus rien. C'est extraordinaire. Et à ce moment-là, il y a une sorte de passage immédiat, je dirais, de la vie dans l'autre monde, parce qu'à un moment donné, il y a un détachement du tel du matériel que la vie elle-même n'est plus matérielle. Ça, c'est l'enseignement des religions de l'Inde qui pousse un peu l'affaire trop loin, à mon goût, puisqu'ils disent que pour faire ce travail, il faut plusieurs vies successives, ce que je ne crois pas. Mais néanmoins, ce travail de détachement, de nettoyage, de balayage, n'est pas du tout absurde, pas du tout absurde. Même s'il n'est pas le but ultime, néanmoins, je pense que c'est une étape importante pour notre vie. Et puis après, la femme, on nous dit qu'elle cherche soigneusement. Alors, elle cherche, voilà. Ça aussi, c'est bien. C'est pas le tout de faire le vide. Il faut faire le vide pour chercher l'essentiel et pour trouver un trésor. Trouver cette drachme perdue, c'est ça, c'est pas de faire le vide pour rien. Elle cherche. Et je crois que là, il y a une démarche essentielle, là aussi, qui est dans la quête, dans la recherche. Et là aussi, c'est l'idée d'une foi dynamique. Ça n'est pas une foi qui se dit « Ah ben c'est bon, moi, j'en sais assez, hein. Je connais bien la parabole du fils prodigue, je la connais par cœur, l'évangile, je l'ai lu, j'ai assez la foi, je suis assez bon, je suis... » Non, en recherche. Je me questionne, j'avance et j'essaye de trouver la brebis qui me manquait, la drachme perdue et de faire revenir encore ce fils qui s'était éloigné, d'avancer pour chercher, quêter et réfléchir. Et ça, c'est très présent dans toute la pensée juive. Vous savez que le texte sacré des Juifs, il y a la Bible et puis un autre, c'est ce qu'on appelle le Midrash, dont on dit qu'il est dicté par Dieu à Moïse comme loi orale. Et le Midrash, ça vient de Darash en hébreu qui veut dire chercher. Et donc le Midrash, c'est une recherche. Et donc voilà, il y a la parole et il y a la recherche, la quête. Et la promesse de l'Évangile, c'est de dire « Cherchez et vous trouverez ». Ça, c'est vrai. Qui cherche, trouve. Oui, oui, oui. Cherchez et vous trouverez. Ça, c'est vrai. Ce que j'ai expérimenté, c'est qu'on ne trouve pas toujours ce qu'on cherche, mais on trouve des trésors. Même chez moi, ça m'est arrivé parfois, je perds un objet. Alors je cherche, je trouve plein d'autres choses extraordinaires. Je me dis, mais finalement, c'est une bénédiction que j'ai perdu cet objet parce que j'ai retrouvé plein de choses que j'avais perdues aussi. Bon, en tout cas, il faut chercher. Et Ésaïe, dans ce chapitre 45 que je vous ai lu tout à l'heure, parle justement de Dieu comme un Dieu qui se cache, pour une sorte de Dieu qui joue à cache-cache. Et donc, le but, c'est d'essayer de le trouver et d'essayer de chercher Dieu et de le trouver. Et Dieu nous dit la promesse qu'il se laisse trouver, justement. Et tiens d'ailleurs, que cherche la femme? On nous dit qu'elle cherche la drachme perdue, donc je cherche, oui, la partie de moi-même à convertir, mais c'est peut-être même encore plus que ça. Parce qu'on nous dit que ce qu'elle trouve, c'est une chose unique. Elle trouve la drachme 1. Et qu'est-ce qui est 1 dans la Bible? Eh bien, c'est Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui est l'unique incréé. C'est la confession de foi d'Israël encore. Shema Israël, écoute Israël, Adonai Eloheinu, l'Éternel est notre Dieu, Adonai Echad, l'Éternel est un. Et donc l'unique, c'est ça qu'elle cherche. Elle était au début, je dirais, éclatée dans une sorte de multiple, et voilà qu'elle se rend compte qu'il lui manque quelque chose, c'est de trouver le un, l'unicité, c'est-à-dire ce qui va donner un sens à sa vie, le pivot de sa vie, le cœur de sa vie. Et c'est ça qu'il faut chercher avant tout. C'est ça la partie qui nous manque le plus gravement. C'est pas de se dire à gauche et à droite, oui c'est vrai, là j'ai un défaut, là je peux corriger ceci, là je pourrais être plus généreux. La quête absolue qui doit être la nôtre, c'est de trouver l'un, c'est-à-dire le cœur, le centre de notre vie qui donne le sens de toute chose et qui harmonise notre vie autour d'un cœur central. Et ça, quand on le trouve, eh bien ça donne une joie infinie, une joie totale, parce qu'on trouve le sens et l'harmonie. Et pourtant, elle n'avait pas rien au départ. Sa vie n'était pas vide. Hein. On nous dit qu'elle avait 10 drachmes. Bon, 10. Bon, puisque je suis parti dans les nombres, je vais continuer. 10 drachmes. 10, c'est les 10 commandements. Donc oui, elle avait, au départ, elle était dans l'idée d'une loi morale. C'est-à-dire, je vais essayer de donner un sens à ma vie avec des commandements. Fais ceci, ne fais pas cela, sois honnête, sois généreux, paye bien tes impôts, élève tes enfants, tout ça. Eh bien, elle est là dans la loi. Et puis, elle se rend compte que dans cette loi, c'est extrêmement dangereux. Parce qu'à un moment donné, il y a toujours un article de loi que l'on ne respecte pas. Et à ce moment-là, on est dans la transgression. Et ça, c'est vrai, parce que la loi ne peut nous sauver que si on appliquait entièrement. Ça nous ramène à ce que je vous disais tout à l'heure, le fils aîné aurait raison s'il avait pu être totalement juste tout le temps. Or, ça n'est pas possible. Eh bien, la loi, elle est comme ça. Même, vous prenez le code civil français, il y a des milliers d'articles de loi. Et mettons qu'il y en ait 10 000, je ne sais pas combien il y en a, peut-être 100 000 plus, vous devez le savoir. Eh bien, s'il y a 100 000 articles de loi, il suffit que sur les 100 000, il y en ait un que vous ne respectiez pas et on vous envoie en prison. Vous dites, mais attendez, j'en ai respecté quand même 999 000, zut, hein, c'est pas mal. Ah oui, mais là, ta 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 ta, vous avez fait ci, c'est pas bien, mauvais citoyen, etc. C'est-à-dire qu'il suffit d'une transgression dans la loi pour être pécheur. Et c'est ça le problème de notre vie. Vous pouvez rajouter des commandements. Il y a les 10 commandements, très bien. Rajoutez les 613 qu'il y a dans l'Ancien Testament. Obéissez à tout ça. Eh bien, vous serez toujours, finalement, convaincu d'être pécheur. Donc oui, vous êtes le fils prodigue. Vous êtes parti avec les prostituées, les machins, les cochons et tout. Et donc, nous sommes tous pécheurs. Et il n'y a qu'une chose à faire, c'est de retrouver l'unique, c'est-à-dire Dieu lui-même. C'est ce que fait le fils prodigue, de revenir vers le Père, celui qui lui a donné la vie et celui qui peut encore lui donner la vie et qui peut le recevoir chez lui. C'est-à-dire qu'il y a simplement ça qui lui manquait, c'est de retrouver cette chose qui donne sens à sa vie parce qu'on est dans un autre ordre que celui uniquement de la multitude des péchés, des réussites, de ce que j'ai fait ou pas fait, mais simplement dans quelque chose qui donne sens à ma vie. Et ça se voit un peu partout, curieusement. Ça se voit, si on réfléchit bien, dans plein d'histoires, comme dans le jeune homme riche, par exemple. Vous avez vu dans le jeune homme riche, eh bien, le jeune homme dit j'ai obéi à tous les commandements. Jésus lui dit, il te manque une chose. Là encore, une chose unique, il te manque un, c'est l'amour. Ou encore, Marthe et Marie. Marthe qui fait des tas de services, elle fait la vaisselle, la cuisine, le ménage. Et Jésus lui dit, Marthe, tu t'agites à beaucoup de choses. Elle est dans la multitude. Marie a trouvé la seule chose qui est nécessaire, l'unique chose nécessaire, qui est la présence de Dieu, c'est-à-dire ce Dieu qui donne sens et qui unifie sa vie. Et ça, c'est la joie, c'est de se savoir pécheur et de découvrir qu'il y a un Dieu unique qui, malgré notre péché, je dirais, nous pardonne, nous accueille, nous aide à avancer, nous permet de progresser, parce que alors ça permet de changer de logique et on n'est plus dans la logique du scrupule, mais on est simplement dans celle de la joie et de la simplicité de la relation aux autres. Et d'ailleurs, ça c'est remarquable que la femme, dès qu'elle a retrouvé sa drachme unique, là, les autres elles s'en fichent finalement, elles n'ont plus d'importance, c'est celle-là, la une qui compte, elle appelle ses voisins, ses voisines, ses copines, ses amis, ses parents, ses sœurs et tout. Elle dit venez, et elle partage la joie. C'est-à-dire qu'on n'est plus comme le pharisien qui s'auto-félicite en disant « moi, je suis bon, moi, je suis honnête, moi, je suis pieux, moi, je suis croyant, moi, je suis... » Mais il dit « venez, mes amis, elle partage la joie avec d'autres. » C'est-à-dire qu'elle est dans le partage, elle est dans la communion et dans une joie qui n'est pas une joie uniquement stérile et égoïste, mais elle est dans une joie communicative qui permet de vivre avec les autres parce que cette quête l'ouvre aux autres. Donc oui, ça lui permet de changer de logique, de ne plus être dans le scrupule, mais dans la grâce pour soi et pour les autres, dans le pardon, et dans une vie qui n'est plus une sorte de forteresse à garder, qui n'est plus une sorte de chef-d'œuvre en péril à protéger contre les menaces du péché ou les menaces de quoi que ce soit, mais simplement la liberté, la joie et la fête d'être aimé et d'être en relation avec un Père qui non seulement nous accueille à bras ouverts, mais même vient nous chercher, nous ramène sur ses épaules et qui donne le sens ultime à toute notre vie. Amen.